Vous écoutez RTL.
Bonne soirée.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est l'un des plus grands groupes de musique de la planète. Ils fêtent cette année les 30 ans de leur album mythique The Joshua Tree. Quelle est l'histoire du groupe irlandais U2 ? Bonsoir Eric Jean-Jean.
Bonsoir les copains.
Vous allez bien ? Oui,
bah ouais, surtout pour vous parler de U2.
C'est combien d'années de carrière U2 ?
U2, bah ils sont nés en 1976, mais ça a vraiment commencé en 78, donc ça fait quelques années. Oui.
Une quarantaine, on va dire quatre décennies.
Sont, mais surtout qu'ils sont copains et qu'ils ne sont jamais séparés.
Alors qui sont les quatre copains ?
Alors il y a quatre copains qui sont là depuis le début, il y a Larry Mullen Junior, Larry Mullen, c'est le batteur, c'est lui qui a créé d'ailleurs en 1976 le groupe en mettant une annonce dans une école très particulière.
On racontera.
Dont je parlerai tout à l'heure, très bien. Il y a Dave Evans, dit The Edge, il y a Adam Clayton qui est le bassiste et Paul Hewson, plus connu sous le nom de Bonovox. Vous savez pourquoi il s'appelle Bonovox ?
Non.
Parce que quand il était petit en Irlande, il y avait une boutique qui vendait des prothèses auditives et les prothèses s'appelaient Bonovox. Et donc il a choisi de s'appeler comme ça à cause de ça.
Et donc il a gardé son petit nom qui est juste Bono.
Voilà, et qui depuis en a fait une méga star. Alors on va s'offrir quelques chiffres. Combien d'albums ? Est-ce qu'il y en a un nouveau en préparation ?
A priori, il y a un nouvel album en préparation. À ce jour, ils en ont vendu quasiment 180 millions, 22 Grammy Awards, 8 Brit Awards, 13 albums studio, un album live, 3 compiles, la totale.
C'est quoi, ouais. Un des plus grands groupes de rock du monde, on peut dire ?
Oui, moi je pense que c'est le plus grand groupe de rock du monde. Alors on pourrait dire aussi les Rolling Stones, mais après c'est une question de génération peut-être. Moi, je préfère U2.
Moi aussi, je préfère U2, ça doit être génération. U2 qui fête donc les 30 ans de cet album de Joshua Tree. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une tournée pour l'occasion ?
Oui, il y a une tournée qui va passer notamment par le Stade de France. On a 3 dates hein, qui sont, il y a les 25, 26 et...
Moi j'en avais que 2, il y en a 3.
Non, il y en a une qui a été rajoutée, je crois, qui est en cours d'être rajoutée. Alors c'est hyper cher. Hein. En fait, Joshua Tree est sorti en mars 1987 et cet album va tout changer pour U2, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des superstars grâce à cet album et cet album, bah, c'est sans doute l'apogée de leur carrière, donc on peut en parler si vous voulez.
Et dans ce 5e album, 11 chansons, dont l'une des plus belles du groupe. Street have no name. Pourquoi cette chanson a failli ne jamais voir le jour, Eric Jean-Jean ?
Parce qu'ils avaient plein de versions de cette chanson. Ils ne savaient pas exactement comment la faire, s'il fallait la faire en folk, en slow, en accéléré. Et Brian Eno dit à un moment, Brian Eno c'est le producteur, il dit ouais, ça suffit, on ne la fait pas. Et puis finalement elle est sortie. Et puis rappelez-vous, cette chanson, au-delà d'une histoire que je vous raconterai tout à l'heure, il y a ce clip vidéo. Ça se passe en mars 1987 sur le toit d'un magasin de spiritueux à Los Angeles. Il y a une radio qui le matin dit ah, il va y avoir un concert de U2 à tel ou tel endroit, au coin de telle rue. Et en fait, il va y avoir quelques morceaux. Et puis soudain, cette chanson, c'est filmé, et à un moment les policiers arrivent, paf, ça coupe, fin de clip qui sera Grammy Awards l'année d'après.
Qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson ?
Where the Streets Have No Name, ça parle de l'Irlande et de rues qu'on n'est pas obligé de nommer. En fait, suivant l'endroit où on habite, dans certaines villes, notamment à Dublin, on sait notre religion et on sait en gros l'argent qu'on gagne. Ouais, on sait qui on est, c'est un peu comme les banlieues riches, les banlieues pauvres, etc. Et puis surtout, on est dans des villes qui sont multiconfessionnelles, c'est-à-dire qu'il y a les catholiques et il y a les protestants. D'ailleurs, c'est le principe de l'école de base où se retrouvent les quatre U2 quand ils se rencontrent.
Ils sont dans une école multiconfessionnelle.
Mount Temple, c'est une école où souvent on met les cancres et surtout c'est une école où on accueille tout le monde, c'est-à-dire les catholiques, les non-catholiques, ceux qui croient en rien, etc. Et ils se retrouvent à partir de là dans cette école. Il y a une annonce qui est passée par le batteur, Larry Mullen, qui a 16 ans. Alors il va commencer par découvrir The Edge, qui est arrivé avec son petit frère, et puis va arriver le bassiste. Et puis à un moment il y a un dragueur, un type qui sait pas jouer de la musique, mais qui a une belle gueule, qui a un truc, et c'est Paul Hewson, et ça va devenir Bono. Ouais. Et ça y est, U2 est né.
Bono qui fait croire qu'il est un peu guitariste, en fait il sait pas trop jouer.
Mais il sait rien jouer, il sait rien.
Il sait même pas trop chanter d'ailleurs.
Non.
Oui,
il sait écrire de belles paroles, ouais. Aujourd'hui on s'en rend compte. Et pour la petite histoire, il va passer une audition dans la cuisine de la maman de Larry Mullen Jr. Les autres vont l'écouter, le trouver pas terrible, mais ils le trouvent charismatique, alors ils vont le garder.
Ah, c'est génial. Ouais. Bon, allez, on écoute une autre chanson, un autre gold de cet album de U2, With or Without You. va l'écouter en entier dans quelques secondes. Donc, c'était juste une mise en bouche, si j'ose dire. Eric, Jean-Jean, surtout qu'on va parler de solo, c'est l'un des plus beaux solos du groupe. Et il y a une partie du groupe, justement, qui trouvait que c'était quoi? Un peu sirupeux?
Ouais, un peu mièvre. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans cette chanson, Bono parle de sa condition de chanteur et de superstar naissante. C'est-à-dire, il est avec la même femme depuis des années. Il est d'ailleurs toujours avec elle. Elle s'appelle Ellie et il se demande s'il doit rester avec elle, s'il doit partir. Qu'est-ce qui se passe quand on est un musicien en tournée, quand on a autant de succès que lui? Mais finalement, il a bien fait de la garder, cette chanson qui est un énorme succès.
Allez, dans un instant, on va vous raconter pourquoi cet album The Joshua Tree est mythique et important dans l'histoire du groupe U2 et où il se trouve cet arbre aussi. À tout de suite, les curieux.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
U2, 40 ans de carrière, l'un des plus grands, des plus beaux groupes de rock du monde. Ils sont en France cet été, Sidonie vient de nous le dire. Et donc, Eric Jean-Jean nous raconte leur destin. Alors, ce cinquième album, là, qui sort en 87...
Mars 87,
Joshua Tree, c'est pas si facile à prononcer. Ouais. Pourquoi il est si important, Eric?
D'abord parce que c'est un album qui les sort d'une trilogie qu'on appelle la trilogie de la guerre, October, War, etc. Vous savez, les images avec les enfants sur les pochettes, ouais. Tout ça. Là, ils vont rentrer dans une phase un peu plus politique. Et puis surtout, cet album-là, c'est vraiment l'album d'un groupe irlandais qui est amoureux des États-Unis. Joshua Tree, le Joshua Tree National Park. J'y suis allé en moto parce que je voulais voir ça. Ça existe. C'est, on va dire, à une centaine de kilomètres dans les terres de Los Angeles. C'est un désert de cactus. En fait, il n'y a rien à voir. Et pour la petite histoire, l'arbre qu'on voit, cette fameuse photo célébrissime de la pochette de Joshua Tree, elle n'a pas été prise à Joshua Tree, mais dans le désert Mojave. Mais bon, c'est la petite histoire. Voilà.
Et cet arbre, il existe toujours dans le désert?
Non, il a disparu depuis 2000. Alors on ne sait pas si c'est des fans, s'il a été vandalisé, on ne sait pas trop. En tout cas, ils ont essayé d'en remettre un. Je crois qu'en 2015, de nouveau, ça a été volé ou vandalisé. Voilà. Mais bon. Voilà.
Alors moi, je me souviens de la pochette. Mais c'est quoi un Joshua Tree?
Bah, c'est un endroit en fait. C'est l'arbre de Joshua. Alors il doit y avoir une.
Ah oui, c'est pas une espèce d'arbre.
Pas du tout. Et alors pour te raconter une histoire, pour vous raconter une histoire, Thomas et Sidonie, je suis allé là-bas et à la sortie de ce parc, hein, c'est une route américaine donc avec des cactus partout autour, des serpents, tout ça. Il y a un vieux saloon tel qu'on l'imagine dans les westerns, tout de bois. Bon, pour la petite histoire...
Avec la porte à battant
avec la porte à battant. Ils ont demandé à mon épouse, qui devait avoir 30 ans à l'époque, son identité, parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas majeure pour nous servir une bière. Anecdote, ça lui a fait plaisir. Et j'ai rencontré un espèce de vieux type qui était édenté dans un coin. Et puis moi, j'avais très envie de parler avec lui de cet album. Alors, je lui ai dit, alors, il semblerait que Larry Mullen avait une fiancée à l'époque dans les parages et que donc, certains membres du groupe allaient dans le coin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai, mais j'aime bien raconter cette
histoire. Quand la légende est belle,
c'est joli. C'est joli.
On a commencé à raconter la rencontre du groupe, c'est génial parce que tout commence par petite annonce. Ouais. C'est des collégiens qui mettent une annonce et qui se disent bah voilà, on a envie de faire un groupe de rock. Ils vont se retrouver tous ensemble. Oui. Il va même, c'est marrant parce que Bono, qui est la star et qui est le chanteur charismatique, c'est un peu le coureur de jupons qui joue pas très bien de la gratte.
Mais ils étaient même pas sûrs de le prendre, Sido.
Ah oui, même pas. Ouais. Vous m'appelez Sido maintenant.
Pardon, excusez-moi, ça m'a échappé.
Appelez-moi Toto.
Mais oui, mon petit Riri.
Ou Tom.
Je plaisante.
Je suis dans une forme
éblouissante. Il y a Gégé, notre producteur, et il y a Seb Aubanet.
Mais c'est la famille, c'est normal. Mais non, je plaisante. Et donc, ils vont se retrouver comme ça, mais il faut un nom de groupe. C'est quoi le premier nom du groupe? C'est
alors,
pas YouTube.
Le premier nom, c'est Feedback. Il y aura plein de noms. Premier nom, Feedback. Ensuite, il y en aura d'autres. Ça va changer. Et puis, soudain, ça va devenir YouTube. Vous savez pourquoi YouTube? C'est un avion espion américain qui avait été abattu par les Russes lors de la guerre froide. Voilà, c'est comme ça qu'ils décident de choisir ce nom.
Alors, ça va commencer par un concert au gymnase du collège. Et puis, un jour, en 79, U2 sort son premier disque, Out of Control. Et ça sonne comme ça.
Pas mal c'est pas mal pour un groupe de jeunesse.
Ouais, sauf que c'est un peu noyé dans la masse. Hein. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait Joy Division, il y avait Depeche Mode qui arrivaient. Puis c'était aussi cette période-là, l'explosion en Angleterre des Clash et des Punk. Donc en fait,
donc ça marche pas bien.
Non, ça marche qu'en Irlande et encore vaguement. Ils en vendent 1000 ou 1500. C'est pas le gros succès, on va dire.
Mais est-ce qu'il y a la patte déjà de U2 ou est-ce que c'est un peu tôt, quoi ?
Non, il y a déjà la patte. On entend la voix de Bono.
C'est pop rock, quoi. C'est unique, ça, quand même. Ce son.
Ouais. La voix de Bono est encore un peu derrière. On n'a pas encore la grosse ligne de basse d'Adam Clayton, puis le son de guitare d'Edge qui va s'imposer comme étant le vrai patron de la musique sur YouTube.
Est-ce qu'il y a une maison de disques pour s'intéresser quand même à cette bande de jeunes là?
Et au début, pas du tout. Et puis, lors d'un concert, ils vont rencontrer un type qui s'appelle Bill Stewart, qui travaille pour Island. Et là, c'est Chris Blackwell qui va les signer. Je ne sais pas si ça vous parle, Chris Blackwell.
Non.
C'est le type qui a découvert Bob Marley, entre autres. Et donc, U2, rock irlandais, va être découvert par Chris Blackwell, le label Island, qui est anglais, mais qui surtout s'est développé grâce à la musique jamaïcaine et le reggae, va signer U2. Et là, les affaires sérieuses vont commencer avec un premier album.
Et oui, en 1980, U2 sort son premier album, Boy, et en Irlande, toutes les radios jouaient ça. Follow du premier album du groupe U2, Boy. Est-ce que l'album va avoir du succès en dehors de l'Irlande?
Pas tant que ça, mais ça commence avec les tournées qui commencent à se faire un peu partout en Grande-Bretagne. Et alors Thomas, vous me parliez de la patte U2, si vous écoutez ce qu'on vient d'entendre là. Là, ça y est,
ça
Bono
commence.
Il a sa voix, il y a le son de guitare de The Edge, il y a la basse, tout est placé. Ça y est, U2 est devenu U2 avec ce premier album qui sort en 1980.
Donc c'est assez rapide en fait. Hein. Il y a quoi? Il y a une petite année de tâtonnement, puisque l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure, c'était 79.
Donc il faut simplement qu'il rentre dans un studio avec des pros. Genre Chris Blackwell et des producteurs et qui se mettent à travailler sérieusement et voilà, et ça devient un son comme ça qui va tenir trois albums. Ouais. Pardon.
C'est déjà un album engagé, c'est déjà un groupe engagé U2 sur cet album Boy.
C'est déjà un groupe vaguement engagé, mais c'est pas tout à fait à ce moment-là que ça va être engagé. Avec Boy, il est plutôt question d'album concept autour de la jeunesse, de l'adolescence et de la mort. Et puis cette fameuse pochette, je sais pas si vous vous en rappelez, où il y a un enfant qu'on voit. Oui, sauf qu'ils ont été un peu attaqués sur cette pochette.
Groupe plan d'un visage de garçon.
Voilà, d'abord on a décrit, c'est ça, groupe plan d'un visage.
Donc c'est un visage de petit garçon qui d'ailleurs sera le même petit garçon sur l'album d'après.
Wow.
Il aura un peu grandi, il a une cicatrice sur la bouche, mais c'est le même petit garçon. Mm-hmm. Sauf qu'il est torse nu, bras écartés. Alors la photo s'arrête à peu près juste au-dessus de la poitrine, donc on voit absolument rien. Mais quand même, quelques mauvaises langues iront jusqu'à dire que ça peut être un peu tendancieux.
Ah oui.
Ouais.
Bon,
mais bon.
Il y a des esprits chagrins, on va dire ça.
Exactement.
On va dire ça comme ça. En tout cas, le groupe U2 est né, est bien né. Vous nous l'avez dit, il y a la patte, tout est posé et une immense carrière se prépare. Ce petit groupe irlandais va conquérir le monde. On va vous expliquer comment, grâce à quel album, cet album War qui va marquer des générations.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est la saga U2 dans la curiosité. Ils viennent fêter les 30 ans de leur album The Joshua Tree au Stade de France cet été, les 25, 26 et une autre date en juillet.
Oui, a priori, il y a une date qui est en train de se préparer.
Qui est en train de tomber, parce que c'est quasi complet, hein, évidemment, U2. Éric Jean-Jean, 40 ans de carrière, des petits gamins qui se sont rencontrés à l'école, ils ont l'air d'être vraiment sans histoire. Alors jamais, ils n'ont eu l'intention de se quitter.
Il y a eu des collaborations hors groupe. Hein. Bono, par exemple, avec Edge, ont fait la BO de Batman Forever, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu aussi Larry Mullen et Adam Clayton qui avaient fait la musique de Mission Impossible. Il y a eu Miss Sarajevo, il y a eu Passengers, tout ça. Mais en fait, U2, bizarrement, c'est une entreprise montée par quatre mômes qui sont restés copains, même quand ça a été mal à un moment.
Mais il n'y en a pas un qui prend le... Quand ça a été mal, pour quelle raison
Parce que Adam Clayton, qui est le bassiste à un moment, a eu de graves problèmes avec l'alcool et la drogue et il a dû se faire remplacer. Il y a un bassiste qui l'a remplacé sur certaines dates et les copains sont restés hyper soudés, l'ont aidé à s'en sortir. Je crois qu'il y a une vraie fraternité. C'est pas comme les Stones qui sont liés par d'autres trucs, mais il y a une vraie fraternité entre ces gars-là.
Oui, parce qu'on a souvent raconté ensemble, Eric, ici, des histoires de grands groupes de rock, de groupes mythiques qui n'ont pas tenu 10 ans ou qui ont tenu une dizaine d'années.
Ouais. Souvent, en raison des égos, des femmes.
Souvent, c'est une histoire, c'est ce que j'allais dire, d'égo. Alors, qui a le lead qui dirige le groupe? C'est plutôt Bono? C'est plutôt Adam Clayton, le bassiste? C'est qui?
Non, alors, au début, c'est Larry Mullen qui crée le groupe.
Ouais.
Et puis, très très vite, Bono prend le leadership parce que sur scène, c'est lui qu'on voit. Sauf que Bono, il a une suprême intelligence. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui aiment U2 de lire un bouquin qui s'appelle Bono par Bono. C'est Mishka Assayas qui a retenu des entretiens avec Bono. Et en fait, Bono, il dit, moi, j'ai des idées. J'ai des bonnes idées. J'ai des idées de texte. J'ai parfois des idées de mélodie. Sauf que si je les fais comme ça tout seul, c'est nul. En fait, c'est The Edge qui est le son de U2. C'est lui qui pose les trucs. Et puis après, toute l'équipe travaille et ça travaille vraiment comme un groupe. Alors, les paroles, c'est quasiment tout le temps, à quelques rares exceptions près, c'est quasiment tout le temps Bono. Ouais. D'ailleurs, il y a une année où il s'était fait voler son ordinateur à New York avec les paroles de tout un album. Je ne sais pas s'il l'a vraiment retrouvé, mais bref, il est passé une annonce en disant « Je m'en fous de l'argent, rendez-moi l'ordi, c'est trop de travail, ça. » Bon, bref, les paroles, c'est Bono. Et en règle générale, la production musicale, c'est The Edge. Mais il faut ajouter aussi deux personnages qui sont Brian Eno, qui est vraiment le type qui est parmi les responsables.
Producteur.
Oui, c'est un producteur qui a travaillé avec Bowie. Et puis Daniel Lanois, qui est un producteur également, qui est canadien. Et ces deux-là ont travaillé dans les différents sons de U2, qui a su d'ailleurs avec les décennies évoluer. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'ils sont
encore là. Ça veut dire quoi, le producteur? C'est quelqu'un qui va donner une patte, qui va... Ouais. C'est comme un arrangeur, quelqu'un qui va,
oui, exactement,
qui va donner la sonorité d'un album ou d'un morceau?
Oui, par exemple, pour faire la comparaison avec une émission de radio, vous préparez votre émission, vous préparez vos questions, et puis en face de vous, il y a un réalisateur et un producteur qui vont décider du temps de parole, qui vont décider du moment où il va y avoir de la musique, quelle musique il va y avoir, quel style, quel ton, à quel niveau. Et ça, c'est un travail qui se fait une fois que les chansons sont enregistrées. Alors parfois, il y a des artistes qui sont eux-mêmes producteurs, c'est pas mal le cas avec U2, mais surtout avec Brian Eno et Daniel Lanois, il y a vraiment beaucoup de travail en collaboration.
Alors parmi les albums qui ont fait l'histoire du groupe U2, War, qui sort en 1983, où l'on découvre la chanson la plus populaire du groupe. Bloody Sunday dans l'album War, c'est un album guerrier, c'est une chanson guerrière.
Ça, c'est une chanson guerrière, ce qui raconte une histoire qui s'est vraiment passée, une manifestation pacifique, c'est le 30 janvier 1972. Et puis les paras anglais, l'armée anglaise qui tire sur une foule de pacifistes, 14 morts, 21 blessés.
On est en Irlande du Nord, à Derry.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est une des rares chansons dont les paroles n'ont pas été écrites par Bono, mais par The Edge, le guitariste.
C'est la plus jouée du groupe, cette chanson?
C'est l'un des plus gros succès du groupe, oui, mais parce que c'est un énorme succès. Écoutez le rythme de batterie, écoutez ce qu'on connaît tous par cœur. Et puis c'est aussi notre génération, ça, quand même. C'est la génération des gars qui ont entre 35 et 50 ans, quoi. Bah on a écouté ça.
On est en plein dedans. Et il y a aussi un autre bijou. Moi, j'hésite dans mes préférés, hein, de U2, entre Sunday, Bloody Sunday et puis New Year's Day. Prendre la parole, aller au moins jusqu'au refrain.
On est tous en train de chanter dans le studio, de gratter, de guitare.
C'est du bonheur, en tout cas. Cette chanson, il y a une histoire là encore.
Ouais, initialement,
au départ,
ça devait être une chanson d'amour pour la femme de Bono. Et puis, comme Bono est très ouvert sur l'actualité, on est en 1980 quand il écrit ça. C'est la Pologne, c'est le syndicat Solidarité, c'est Lech Walesa. Et donc, il transforme ça en une chanson politique destinée justement à Lech Walesa et au syndicat Solidarność.
Et sur la couverture de ce disque, parce qu'elle compte les... Pas la couverture, la pochette, pardon, elle compte ses pochettes. Il y a le visage de ce petit garçon, mais un petit garçon abîmé.
Oui, mais parce que justement, la chanson, l'album s'appelle War, et le petit garçon, c'est exactement la même que sur le précédent
Boy.
Album. Sauf que cette fois-ci, il est un peu plus engagé, il s'est un peu plus bagarré. Donc en fait, il a la lèvre fendue, et puis on sent qu'il a le regard un peu plus dur. Ouais.
Donc on est en 83, le groupe U2 existe depuis 1976, donc ça fait à peine 7 ans. Il en est où dans la hiérarchie des grands groupes mondiaux? Il est déjà au top?
Là, il commence à exploser, il va falloir le Live Aid pour qu'il explose complètement. Mais surtout, il commence commencent à faire des tournées. D'ailleurs, il y a un album qui s'appelle Under a Blood Red Sky où il y a 7 ou 8 chansons, pas plus, mais parmi lesquelles les plus grandes de U2, notamment celles qu'on vient d'écouter en extrait tout à l'heure. Et sur scène, moi je les ai vues pour la première fois sur scène, je devais avoir une quinzaine d'années, c'était absolument phénoménal. C'est d'abord et avant tout un groupe de scène, U2.
Les années 80, des années magiques pour le groupe U2. Le début des années 90 sera un peu plus difficile. Tension et changement de cap pour le meilleur, vous verrez. On se retrouve tout de suite sur RTL après les infos.
Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va chercher à comprendre comment des hommes basculent dans l'horreur et le crime. Vous découvrirez notamment l'histoire de Charles Manson, surnommé le hippie tueur de stars, un gourou et ses adeptes qui avaient sauvagement massacré Sharon Tate, la femme de Roman Polanski.
Et tout de suite, c'est l'heure des infos. RTL, il est 21h.
RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue les curieux, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Il est 21h, il reste une heure d'histoire, de destin, de secrets, de révélations. On va se régaler, c'est comme ça sur RTL, tous les soirs de 20h à 22h, du lundi au jeudi. Et puis aussi un peu de vendredi de temps en temps. Et puis le samedi et le dimanche, pour les meilleurs moments, vous savez tout.
Voilà, 14h, tout à l'heure vers 21h15, on va découvrir le destin des pires criminels de l'histoire, des serviteurs du mal, comme les appelle notre invité Pierre Lunel. Parmi eux, il y a Charles Manson, le hippie tueur de stars, une plongée dans l'Amérique de la fin des années 60. Sexe, LSD et violence.
Et tout de suite, on continue la saga du groupe irlandais U2.
Fier d'être curieux avec RTL. Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec. Thomas Hugues.
U2 est dans la curiosité, on raconte 40 années de carrière, de succès, mais aussi de doutes et de métamorphoses. On va en parler avec Eric Jean-Jean. U2 dans la curiosité à l'occasion des 30 ans de l'album Joshua Tree, j'arrive jamais à le prononcer.
Joshua Tree, l'arbre de Joshua, on
voilà,
va dire.
Voilà, on peut dire ça comme ça.
Le cinquième album
parce que
de
vous,
mars 87.
Vous dites Joshua et moi je dis Joshua, donc je ne sais pas.
Mais je crois que c'est vous qui avez raison, Thomas.
C'est peut-être vous, en fait. Hein. On continue de se faire des salamalecs, Eric, ça peut durer longtemps.
Est-ce que vous êtes formidable, Thomas, vous êtes très bon. Vous l'avez déjà dit ou pas?
Et ça moi, va, j'adore, moi je vous sens le pâté ou
vous êtes merveilleuse aussi. Bon, allez, sérieux, est-ce que U2 prépare un nouvel album? Parce que
a
ça,
priori,
pour le fan
oui.
que je suis, c'est important.
Un 14e album, j'espère que ce sera un bon album. On va pas se mentir, ça fait longtemps que U2 a pas fait de très très grandes chansons, du niveau de One par exemple. Donc on espère que voilà, il va y avoir de nouvelles chansons. Mais aujourd'hui, Bono, c'est plus un homme politique, c'est plus un homme engagé qui lutte sur plein de fronts. Mmh. D'ailleurs, justement, dans le bouquin dont je vous parlais lors de l'enregistrement d'un
Bono
album,
par Bono
ouais, par Mishka Assayas, à un moment, ils sont en studio, les membres, et il y a Edge qui prend le Blackberry, à l'époque c'était un Blackberry de Bono, qui le pose et qui dit: mec, si tu veux qu'on fasse une chanson, arrête de téléphoner. Il était au téléphone avec Bill Clinton à ce moment.
C'est bon ça. Ouais, bah justement, oui, à propos de chansons et d'albums, engagés en 84, sort leur quatrième album, il s'appelle The Unforgettable Fire, et sur ce disque, l'un de leurs plus grands tubes. In the Name of Love, c'est une chanson écrite en l'honneur de qui, Eric Jean-Jean?
Du pasteur Martin Luther King. Et là, avec cet album, alors il s'appelle The Unforgettable Fire parce que c'est un hommage à une expo qui avait été organisée par les survivants des attaques nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc cette chanson, hommage au pasteur Martin Luther King, évidemment, va devenir l'un des plus gros tubes de U2. Elle sera même chantée par le groupe en 2007 lors de l'investiture du président Barack Obama.
Et au cœur, on trouve qui pour les cœurs de cette chanson?
Chris Hine. Alors vous savez,
les Pretenders.
Oui, mais alors vous savez pourquoi? Parce que U2 à l'époque était très copain avec un groupe qui s'appelle Simple Minds, dont le leader s'appelle Jim Kerr. Et en fait, Jim Kerr, à l'époque, avait pour fiancé Chrissy Hine. Donc voilà, studio, copinerie, etc. Allez, viens chanter, boum.
Il n'y a pas des histoires de copines et de femmes chez les U2 comme pour...
Non,
les Rolling Stones.
Non.
Qu'est-ce qu'on en a parlé des femmes entre eux?
Ah oui. Les Rolling Stones, ils se sont piqués la même femme pour tous les uns et les autres.
Oui. Oui, non, enfin, Mick Jagger a piqué la femme de tout le monde. C'est un autre sujet. Non, il n'y a pas ça. Il y a vraiment de la fraternité, notamment dans les deux couples que forme le quatuor de U2, c'est-à-dire Adam Clayton et Larry Mullen, batteur et bassiste, sont insécable. Et Bono et The Edge sont les meilleurs amis de la Terre. Et c'est fou parce que l'argent, la gloire, le succès, et puis les tournées, ça n'a pas réussi à les séparer, ce qui est fort.
Pourtant, au tournant des années 90, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire ça comme ça. Ils ont du mal à retrouver la magie.
Mais oui, parce que si vous remettez à cette époque-là, ce qui marche partout, c'est la musique électro, eurodance, etc. Mm-hmm. Le grunge va pas tarder à tout exploser, parce que Nirvana, ça arrive en 91. Et U2 sait pas trop quoi faire. Alors, ils vont aller en Allemagne, à Berlin, dans un studio qui s'appelle Hansa, le fameux studio où David Bowie avait enregistré sa trilogie berlinoise. Ils vont travailler avec Daniel Lanoy et se mettre à travailler sur des chansons plus dures. Sauf que Bono a envie de beaux textes très engagés, Edge a envie de gros sons de guitare, ils n'arrivent pas à s'entendre, sauf sur une chanson qui, pour le coup, n'est pas une chanson rock.
Éric Jean-Jean, finalement, ça rejoint leur propre histoire, de la difficulté d'être un groupe, de se mettre d'accord, de faire un. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Non, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse et je m'en excuse, Thomas.
Non, c'est pas grave.
Ça raconte l'histoire de la séparation d'un couple. Alors peut-être le groupe, on peut mettre ça là-dedans, mais c'est surtout, si on comprend la deuxième lecture, un jeune gay qui annonce à son père qu'il va bientôt mourir du sida. Et en fait, pour moi, cette chanson, One, c'est d'ailleurs tous les royalties depuis aujourd'hui encore. Là, ce qu'on est en train de passer, ça va générer des droits d'auteur qui vont aller à la recherche contre le sida depuis la création de cette chanson. Et en fait, pour moi, One, c'est probablement le Imagine des années sida, c'est-à-dire des années 90. Un vrai hymne, généreux en plus, parce que U2 a tout donné, tous les droits et tout le temps.
Alors autour de ce titre, One va se construire le sixième album des U2 à Berlin. Il s'appelle Hartum Baby. C'est un son nouveau.
C'est dingue. C'est dingue. Écoutez, j'étais à la radio à ce moment-là, dans une autre radio. On a reçu d'abord une Trabant. Vous savez, ces petites voitures de l'Allemagne de l'Est. Et puis après, on a écouté l'album. Et pour le coup, ils ont fait des sons extrêmement durs, extrêmement froids. Et surtout, Bono trouve une autre attitude et un autre look. Les grosses lunettes, ça vous rappelle quelque chose ?
Bien
la
sûr.
Mouche, The Fly. C'est pour cet album qu'il crée son alter ego médiatique, on va dire. Parce que
mégalo.
Sur la tournée. Mégalo, un peu zapper fou, parce que sur la tournée qui va s'en suivre, justement, il va y avoir des écrans de télé partout. Je vous en parlerai si vous voulez. Enfin, voilà, il découvre The Fly, le personnage, et les grosses lunettes de Bono, ça arrive à ce moment-là, mais surtout avec des gros sons de guitare, et c'est là où Edge a le pouvoir.
Oui, un son un peu plus électrique, qui va peut-être aussi un peu déconcerter les fans. Écoutez.
Si vous écoutez bien, il y a non seulement de la guitare électrique saturée, mais aussi des rythmiques qui ressemblent au groupe de l'époque, Prodigy, etc., c'est-à-dire à la musique électropop.
Est-ce que c'est à cette époque que vous avez eu la chance de passer une soirée particulière avec U2 ?
Alors, c'était un peu sur l'album d'après qui s'appelait Pop, mais je veux bien vous la raconter tout à l'heure.
C'est dans un instant sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL. Yeah. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les chansons de U2 font forcément partie de la bande originale de votre vie. On vous raconte leur histoire sur RTL avec Éric Jean-Jean. U2, évidemment, en album, c'est formidable, mais sur scène, c'est extra. Vous les avez vus. Moi aussi, j'ai eu la chance de les voir. J'avais même pas 13-14 ans. C'était à la Beaujoire, à Nantes, pour leur Zoo TV Tour. Mais quelle claque! Vous nous racontez la mise en scène?
Alors, la mise en scène est absolument dingue. C'est-à-dire que le fond de scène, ce ne sont que des écrans de télé de tailles différentes et avec des images qui souvent sont en direct du monde. Alors, il y a Sarajevo, il y a l'Amérique, il y a des publicités. Voilà. Et de temps en temps, Bono.
On est au début des années 90.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'omniprésence de la télévision, en fait. Hein. Les médias. médias, MTV, etc. Il se retourne et il zappe, etc. Et de temps en temps, il met une image. Et puis surtout, pendant ce concert, moi j'ai vu les concerts parisiens, il y avait deux concerts. Pendant le premier que j'ai vu, il a appelé l'Élysée. Il voulait parler au président de la République, qui je crois était le président Chirac à l'époque.
Il l'a pas eu ?
Non, il l'a pas eu. Et ensuite, il a le lendemain appelé Jean-Marie Le Pen et on y est tombé sur un répondeur et il lui a dit en anglais, dites-lui que Méphistophélès, le diable, voulait le joindre ce soir. Et donc tout le monde, oh, enfin, voilà, c'est très impressionnant. Je crois que j'ai jamais raté un concert de U2 depuis mes 15 ans, c'est-à-dire depuis 1943, quoi.
Incroyable.
Et il se présente comment U2 ? Moi, j'en ai vu quelques-uns sur scène. Il y a un côté un peu gourou, c'est un peu messianique quand même.
Ouais, il y a ça. Et puis il y a surtout le personnage terriblement charismatique de Bono qui réussit alors qu'il est dans des stades, qu'il y a des crash barrières, que les gens sont hyper loin, à faire monter son grand truc. D'ailleurs, Kali lui a piqué l'histoire. Mmh. C'est de faire monter généralement une fille plutôt jolie sur scène et de la coucher sur lui pendant qu'il interprète une chanson comme ça. Et donc, en fait, les musiciens jouent et Bono est couché sur la scène et y a une fille sur lui et il chante, alors je sais pas, One ou une autre chanson. Et généralement, la fille a un peu de mal à s'en remettre après, mais je comprends après.
Si vous savez comment j'ai envié toutes ces filles.
Tu l'as vu aussi. Vous l'avez vu aussi.
Oui, je l'ai vu. Vous avez passé une soirée avec les U2, Eric Jean-Jean. Bon, vous êtes journaliste musical, vous les côtoyez beaucoup,
ça
c'est
aide,
ça.
Mais quand même,
là, il vous est arrivé un truc assez particulier.
C'était la sortie de l'album Pop, donc la deuxième partie des années 90. Ils avaient fait un lancement dans un supermarché et puis ensuite il y avait eu un concert au Giant Stadium à New York où j'avais été invité. Là j'avais un peu sympathisé avec Edge qui est le guitariste, il est plus grand que moi, c'est un grand truc, il avait un Stetson à l'époque tout le temps sur la tête. On bavarde, il me présente un type qui n'est autre que Chris Blackwell, donc j'ai serré la main de Chris Blackwell, le type qui a inventé Bob Marley, et voilà. Et puis ensuite ils viennent en interview la veille du Parc des Princes, ils jouaient au Parc des Princes, c'était le Pop Mart Tour, et donc on fait une interview en direct. Bono arrive un poil en retard, moi je suis avec The Edge, on bavarde, on fait l'interview. Et à la fin, il me dit, bah alors, tu viens à l'after demain? Enfin, on se dit en anglais, je dis, bah non, j'ai pas de billet. Alors, il sort un truc argenté. Et il me dit, bah tiens, rendez-vous là. Et donc, ça se passait en face de la Fnac des Ternes, je dis ça pour les Parisiens, un endroit qui à l'époque s'appelait pas encore le Stringfellow. Bref, c'était une boîte de nuit en sous-bassement, comme ça. Et donc, j'arrive, je descends, il y a tout Paris. Hein. Il y avait Jean-Louis Aubert, Mylène Farmer, etc., qui sont en train de danser au milieu de la piste de danse. Il y a Edge.
Un Stetson.
Ouais, un Stetson sur la tête, donc genre il fait 20 cm de plus que tout le monde, il écarte les bras et il fait « Hey, my French friend !» Il me prend dans ses bras et il m'amène dans le VIP du VIP. Il y avait une fille, Bono, une fille, Larry Mullen, Adam Clayton, de la vodka, Edge et moi, et j'ai passé, je vois, les deux plus grandes heures de ma vie. Imaginez un môme fan qui fait ce métier parce qu'il a envie de passer des disques à la radio, qui adore U2 et qui les a vus en concert des dizaines de fois et qui à un moment se retrouve à discuter avec ces mecs-là, c'était insensé.
Bon, la question qu'on va vous poser, c'est alors, ils sont sympas les U2 ?
Je peux pas répondre à cette question.
Comment
parce
ça
que, mais non, mais
vous
n'avez
même pas discuté.
Bah si, mais si, j'ai discuté avec Edge.
Super.
Alors Edge est formidable, très attentionné, il demande des nouvelles, etc. Les trois autres, j'ai pas eu une vraie conversation avec eux. Bono m'a pris dans ses bras. Et ça me fera toute ma vie. Je
bah oui,
et j'ai une photo chez
trop
moi
jaloux.
D'ailleurs avec Edge
aussi,
en train de bavarder. Non, c'est cool.
Oui, et que vous avez mis chez vous.
Oui, enfin vous avez vu.
Oui.
Bon, si on reparlait un peu quand même de leur chanson.
On écoute un peu
aussi,
de
on écoute un peu de musique. C'est l'album All That You Can Leave Behind. Ça sort en octobre 2000 avec ce titre phare. Les coulisses de l'enregistrement, il est enregistré où, comment,
en France, parce que Bono et The Edge ont tous les deux des résidences secondaires dans le sud de la France. D'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'ils avaient travaillé aussi sur, je ne sais pas si vous vous rappelez, une BO de James Bond chantée par Tina Turner, dont ils avaient fait la musique. Voilà, ça a été fait en France. Il y a même un clip qui avait été enregistré, rappelez-vous, sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Voilà, mais U2 a un rapport un peu particulier et très friendly avec la France.
Ils
voilà.
ont particulièrement de succès en France, les U2.
Oui, mais ils en ont partout.
Oui, d'accord.
Ils en ont partout. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands groupes du monde.
Autre morceau magnifique de cet album, écoutez. In a moment you can get out. You Can Get Off, pardon, c'est un hommage à qui, Bono?
C'est une conversation avec celui qui était son ami, Michael Hutchence, qui est mort en pratiquant dans un hôtel.
Le chanteur
d'In Excess. Ouais. Un jeu sexuel qui consiste à un truc complètement débile, qui consiste à se pendre, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ça a mal tourné, il en est mort, voilà, le chanteur d'In Excess, qui était l'ami de Bono.
Et donc Bono imagine une conversation avec lui qui continue, c'est ça?
Ouais, c'est ça, tu restes dans bloqué dans un moment, mais tu ne peux pas revenir en arrière, enfin, il y va aussi du regret de la mort, etc. Voilà, c'est un hommage appuyé sans le dire.
Allez, dans cet album, encore une autre chanson, une chanson engagée qui a une belle histoire. Welcome.
C'est intéressant, on vient de passer une chanson très personnelle qui est liée à son histoire, son amitié avec Michael Hutchence. Et puis là, on est de nouveau dans le U2 politique.
Oui, d'ailleurs, c'est la chanson qui vaudra à l'album d'être interdit de la vente en Birmanie, parce que c'est une chanson qui est dédiée à l'opposante birmane emprisonnée Aung San Suu Kyi, que Bono a rencontrée des années après d'ailleurs. Elle a été libérée en 2010 et Bono l'avait invitée en 2012. Il l'a rencontrée chez lui à Dublin.
Alors vous savez qu'on pourrait passer la nuit avec vous et U2, Eric Jean-Jean, mais il va falloir se quitter. U2, c'est... Ils sont en concert au Stade de France les 25 et 26 juillet prochains. Je crois qu'il reste quelques places sur la dernière date, mais elles sont à quelque chose comme 200 euros. Donc c'est un peu une folie. Ouais. Prochain grand studio, Eric, pour vous.
Prochain grand studio samedi, voilà, bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que dimanche, pour la première heure à minuit, je reçois un type formidable. J'ai enregistré aujourd'hui, c'est Lilian Thuram, champion du monde et type brillantissime qui sort une BD. Ça sera dimanche à minuit.
C'est un grand monsieur, Lilian.
Exactement.
Et puis tous les jours, Eric Jean-Jean vous retrouve sur RTL2, le Drive, 16h-19h. Où on écoute forcément du U2. À bientôt.
Et Eric, on se retrouve à Bordeaux, près de Bordeaux, à Talence, ce week-end.
À Pexoto, voilà, pour le festival ODP, pour l'œuvre des pupilles des pompiers de France, dont Thomas est le parrain. Moi, j'ai fait partie des organisateurs de ce festival où on verra sur scène Vianney, Imani, Julien Doré, Catherine Ringer. Et moi, je ferai mon émission sur RTL2 en direct le lundi entre 16h et 19h. Merci de m'avoir invité, les amis.
C'est un bonheur.
Merci, Eric. Ciao, ciao.
Au revoir.
À ce week-end.